Vous écoutez France Culture.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins se demandent tous les jours comment le vrai monde a fini par tourner à la fable. En compagnie de Jean Danielou, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon et Mathilde Wagman. À la lecture généalogique des textes cette semaine, Jean-Louis Jacopin. À la réalisation de Momies empaillées, Mylia Portis-Guérin. Avec aujourd'hui à la prise de son sans raison, Éric Boisset. À 10h47, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous parlera d'écologie comme tous les jours cette semaine avec aujourd'hui le livre de Jean-Pierre Mouret, Relation paradoxale de l'art à la nature, publié aux presses de l'Université de Saint-Étienne. Dernier temps de notre semaine passée à ausculter les idoles, à renverser les valeurs et guetter le crépuscule d'un arrière-monde déclinant et sur le point de devenir fable, c'est-à-dire à lire Le crépuscule des idoles de Friedrich Nietzsche. Après Le petit soleil et la déclaration de guerre, c'est-à-dire la préface, avec Céline Denat, lundi, Ce que je dois aux anciens, avec Yanis Constantinides, mardi, et Dorian Astor, hier mercredi, c'est aujourd'hui le philosophe Paolo Diorio qui vient nous éclairer sur 3 chapitres du livre, La raison en philosophie, comment le vrai monde finit par tourner à la fable et les 4 grandes erreurs.
Vous me demandez tout ce qui, chez les philosophes, est idiosyncrasie. Par exemple, leur manque de sens historique, leur haine de l'idée même de devenir, leur égypticisme. Ils croient faire honneur à une chose en la déshistoricisant, en la transformant en momie. Tout ce que les philosophes ont manipulé depuis des millénaires, ce furent des momies conceptuelles. Rien de réel n'est sorti vivant de leurs mains. Ils tuent, ils empaillent ces messieurs idolâtres du concept lorsqu'ils adorent. Ils exposent tout à un péril mortel lorsqu'ils adorent. La mort, le changement, l'âge, tout comme la procréation et la croissance, sont pour eux des objections, même des réfutations. Ce qui est ne devient pas, ce qui devient n'est pas. Et ils croient tous, jusqu'au désespoir, à l'étang. Mais ne parvenant à s'en saisir, ils recherchent des raisons expliquant pourquoi on le leur cache. Il doit y avoir une illusion, une tromperie dans le fait que nous ne percevions pas l'étang. Où se trouve le trompeur ? Nous le tenons, s'écrie-t-il aux anges. C'est la sensibilité, ces sens qui, par-dessus le marché, sont si immoraux. Ils nous trompent au sujet du vrai monde. Moralité, se débarrasser de la tromperie des sens, du devenir, de l'histoire, du mensonge. L'histoire n'est que croyance au sens, croyance au mensonge. Moralité, dire non à tout ce qui accorde foi au sens, au reste de l'humanité tout entière. Tout cela est peuple. Être philosophe, être momie, représenter le monotonothéisme en mimant les fossoyeurs. Et, avant tout, au diable le corps, cette pitoyable idée fixe des sens, affectée de toutes les fautes de logique possible, réfutée, impossible même, bien qu'il ait l'impudence de se comporter comme s'il était réel.
Bonjour Paolo Diorio.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance.
Merci.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez participé à l'édition des œuvres de Nietzsche en Pléiade et l'auteur d'un livre intitulé Le voyage de Nietzsche à Sorrente aux éditions du CNRS. Ouais. Et c'est donc avec vous que nous terminons déjà cette semaine consacrée au crépuscule des idoles. On vient d'entendre, interprété par Jean-Louis Jacopin, le début du chapitre intitulé La raison en philosophie, où Nietzsche règle ses comptes, il le fait d'ailleurs tout au long du texte, hein, avec certains de ses contemporains et d'autres philosophes qui le précèdent et qui, selon lui, ont mal interprété cette raison. La preuve en est, c'est qu'il l'entoure de guillemets dans le titre.
Oui, bah, effectivement, c'est toute l'histoire de la philosophie, une certaine tradition occidentale de la philosophie qui est convoquée, qui est critiquée. Il faut s'entendre d'abord sous le sens des raisons. Parce que bon, le mot raison a plusieurs sens. Il y a un sens cicéronien qui vient de, donc de Cicéron, mais qui vient du mot grec logos, qui coïncide avec les, plus ou moins avec les mots latins ratio, et qui est la raison de Descartes, pour s'entendre. C'est-à-dire, c'est la raison qui est la capacité de connecter des concepts de manière juste, de distinguer les vrais du faux, et qui s'oppose donc à la passion, à la folie, à l'ignorance, à l'erreur. Et puis, il y a un autre sens des raisons, hein, pour faire court, parce qu'il y a d'autres, un certain nombre de sens des raisons, bien sûr, dans l'histoire de la philosophie, mais il y a une autre tradition qui est celle de la raison en tant que nous, hein, qui vient du mot grec nous, qui signifie intelligence, intellect, et qui est utilisé par Platon pour désigner donc le monde tel que nous pouvons les saisir à travers la raison, donc le monde des idées, des concepts purs. Et c'est en sens qu'ensuite sera repris dans le monde moderne, par exemple par Leibniz, mais surtout par Kant. Donc dans ce sens-là, la raison, c'est la faculté de connaître a priori. C'est-à-dire ne pas connaître à partir des données de l'expérience sensible, des sens, mais à partir des principes purs de la raison. Et alors donc, c'est exactement ce que Nietzsche critique ici, c'est ce deuxième sens des raisons que Nietzsche convoque dans ses paragraphes. Il s'insère dans cette tradition qu'il trouvait d'ailleurs représentée par Schopenhauer, qui était un de ses maîtres philosophiques. Et donc, cette raison crée, comme nous l'avons entendu dans les textes qui ont été lus, crée une dichotomie dans l'intérieur du monde, entre un monde sensible et un monde donc de l'idée, un monde des idées, un monde du devenir et un monde de l'être, un monde du phénomène et un monde du noumène, un monde de sens, justement, un monde de la raison, un monde vrai et un monde apparent. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire, Nietzsche ? Nietzsche entend recomposer cette dichotomie et nous restituer ainsi donc, le monde, l'unique monde qui existe. La philosophie de Nietzsche est moniste, comme on disait à l'époque, à la fin du 19e siècle. Il ne faut jamais oublier que Nietzsche, bien que nous avons tendance à le considérer notre contemporain, parce que ça nous attire incroyablement, mais c'est un homme du 19e siècle, et au 19e siècle, une des courantes philosophiques à l'époque, c'était le monisme. Et donc, qui essaye d'expliquer toute la réalité à partir d'un principe unique, et non pas en divisant le monde en deux ou plus parties.
Et cette raison que les philosophes avant lui ont opposée à la sensibilité, c'est ce que disait le texte de manière très ironique, hein, « Nous tenons l'ennemi de la raison, c'est la sensibilité, disent-ils, oui. Et donc le corps », cette raison, nous dit Nietzsche, en plus de ne pas s'opposer complètement au corps et au sens, doit aussi être envisagée selon une composante essentielle et qui a été omise ou ratée par les philosophes qui le précèdent, et qui est l'histoire. Ouais. La raison doit s'inscrire dans une histoire, absolument, au risque, sinon, de momifier les concepts, nous dit Nietzsche.
Ça, c'est très important, la dimension historique de la philosophie de Nietzsche. Et c'est quelque chose que parfois on oublie. On l'oublie parce qu'il faut dire que si on retrace un peu l'histoire du rapport de Nietzsche avec la métaphysique, donc avec l'idée d'un monde vrai et d'un monde apparent, on voit que Nietzsche, la première lecture philosophique de Nietzsche est l'histoire du matérialisme de Friedrich Albert Lange, hein, qui était un auteur très célèbre à l'époque, qui avait fait toute une histoire du matérialisme, et de l'Antiquité jusqu'à l'époque présente, contemporaine de Nietzsche. Et ça, c'est le texte philosophique sur lequel Nietzsche se forme. Et donc, vous voyez, ce n'est pas du tout métaphysique, c'est plutôt l'histoire du matérialisme, même s'il y avait un chapitre dans cette histoire du matérialisme qui était le point de vue de l'idéal, disait Friedrich Albert Lange. C'est-à-dire l'idée que même si la métaphysique n'a pas de valeur de vérité, on peut l'utiliser comme de la poésie conceptuelle qui nous élève, qui nous donne une vision plus élevée de la réalité, tout n'étant pas vrai. Et après, Nietzsche lit Schopenhauer, on le disait tout à l'heure, son grand maître, qui quand même divisait le monde en deux. Vous savez, l'œuvre principale de Schopenhauer, c'est le monde comme volonté et représentation. La volonté, c'est un nom pour dire la chose en soi de Kant, donc c'est le monde nouménique, et la représentation, c'est le monde du phénomène. Alors, comment concilier ces deux idées? Nietzsche le dit tout jeune dans une lettre à ses amis, il nous dit Schopenhauer peut encore être utilisé, notre grand maître, parce qu'on conçoit la métaphysique comme quelque chose d'édifiant, comme une poésie conceptuelle. Et cela explique la naissance de la tragédie. Parce que dans la naissance de la tragédie,
le premier texte publié
par Nietzsche, et qui nous propose une métaphysique. Nietzsche a pratiqué la métaphysique. Dans La naissance de la tragédie, vous avez l'idée d'un principe métaphysique qui est au-delà du temps, qui est appelé « Ureine », l'un originaire, qui correspond grosso modo à la chose en soi, et puis vous avez le monde du phénomène. Et donc c'est très particulier, c'est une métaphysique de l'artiste qui est très fascinant, parce que le « Ureine », nous dit Nietzsche, est composé de la joie et de la douleur originaire. Et donc il est tourmenté, il est complètement en contradiction avec lui-même, il a besoin de se décharger de ses contradictions et de sa souffrance, et il produit ainsi le monde phénoménique. Le monde, nous sommes les, nous dit Nietzsche dans La naissance de la tragédie, nous sommes le résultat de cette tension de l'âme originaire qui veut se décharger de sa souffrance. Donc c'est une métaphysique extraordinaire, mais Nietzsche n'y croyait pas, pas du tout. Il est dit même dans les notes posthumes, si on lit les notes posthumes, il sait très bien que c'est quelque chose qu'il fait pour faire une action culturelle avec Richard Wagner pour la renaissance, le renouveau de la culture allemande, de la renaissance de la tragédie ancienne. Donc il la pratique. Mais à un certain moment, il met fin à cette phase wagnérienne métaphysique. Justement, c'est le voyage à Sorrente qui lui donne la possibilité de réfléchir et de retourner, comme il dit, à lui-même, c'est-à-dire à sa philosophie, enfin, ce premier pas philosophique qui allait dans une direction non métaphysique. Et donc, le livre qui va sanctionner, qui va expliquer ces tournants dans la philosophie de Nietzsche, est Humain trop humain. Et les premiers aphorismes d'Humain trop humain parlent justement de l'idiosyncrasie des philosophes qui sont dépourvus de ce manque de sens historique de la part des philosophes. Et il dit, en parfaite continuité, vous voyez, donc à partir du maître humain jusqu'au crépuscule des idoles, les problèmes des philosophes pour Nietzsche est qu'ils ne savent pas reconstruire l'histoire de la pensée.
Mais ça, c'est assez amusant quand on sait que Nietzsche avait finalement très peu lu les philosophes dont il parle, à part Schopenhauer et certains autres. Il a très peu fréquenté les textes de Descartes, de Kant auxquels il s'oppose.
C'est très intéressant parce que bon, moi, j'avais eu l'occasion de travailler sur la bibliothèque de Nietzsche, c'est-à-dire les livres que Nietzsche avait possédés et les achats aussi qu'il avait faits. La bibliothèque est conservée à Weimar, aux archives, à la Herzoginnenallee Bibliothèque de Weimar. Et Nietzsche connaissait très bien les philosophes grecs parce qu'il était philologue et spécialisé aussi sur les sources de Diogène Laërce, donc qui nous donne un aperçu très important de la philosophie ancienne. Il la connaissait par cœur Platon, qui lisait en grec, bien sûr. Mais par contre, pour la philosophie moderne et contemporaine, il lisait beaucoup la littérature secondaire. C'est-à-dire, au lieu de dire Kant, il lisait le néo-kantisme des auteurs que nous, aujourd'hui, nous ne connaissons plus, comme African Spear, par exemple, Otto Liebman, mais qui donnait toute une discussion du kantisme, etc. Donc, Nietzsche utilise souvent des sources des secondes mains, comme on dirait aujourd'hui, mais il en fait des choses merveilleuses parce qu'il arrive à saisir le point de la question, et il arrive à les transformer d'une manière extraordinaire. Et donc, même s'il utilise des sources qui sont... Par exemple, les cas de Spinoza. Nietzsche n'a jamais lu l'éthique de Spinoza, qu'on sache, parce qu'on n'a pas des traces de cette lecture. Par contre, il a lu un texte de Kuno Fischer sur l'histoire de la philosophie moderne, qui était pratiquement un résumé et une traduction allemande de l'éthique de Spinoza. Et à partir de là, il dit dans une lettre en 81, « J'ai un précurseur. » Et quel précurseur ? Spinoza est un précurseur. Voilà.
Scinder le monde en un vrai monde et un apparent, que ce soit la manière du christianisme ou que ce soit la manière de Kant, un chrétien sournois au bout du compte, n'est qu'une suggestion de la décadence, un symptôme de vie déclinante. Que l'artiste place l'apparence plus haut que la réalité n'est pas une objection contre cette proposition, car l'apparence signifie ici la réalité encore une fois, simplement sous une forme choisie, renforcée, corrigée.
La première matrice que j'ai créée était parfaite, une vraie œuvre d'art, irréprochable, sublime. Un triomphe qui n'eut d'égal que son monumental échec. Sa chute inexorable m'apparaît à présent comme une conséquence de l'imperfection inhérente à tout être humain. Je l'ai donc remanié, selon votre évolution, pour refléter plus fidèlement les diverses bizarreries de votre nature. J'ai cependant été frustré par un nouvel échec. J'ai compris par la suite que le succès m'échappait parce qu'il fallait un esprit inférieur au mien, ou peut-être bien Un esprit qui serait moins soumis à ses paramètres de perfection. Tu es venu jusqu'ici parce que Sion est sur le point d'être détruite. Les êtres vivants qui l'habitent exterminés et jusqu'à son existence éradiquée.
Connerie.
Connerie !
Le déni est la plus prévisible des réponses humaines. Mais sois sûr d'une chose. Ce n'est pas un problème, c'est la sixième fois que nous devons la détruire. Et nous avons appris à le faire avec une étonnante efficacité.
Dans le film Matrix de Andy et Lana Wachowski, c'était Matrix Reloaded, qui date de 2003 à Palo Duro, la matrice a le même rôle que la métaphysique dans le système nietzschéen. C'est une sorte d'arrière-monde que l'on construit, ici il y a un créateur de la matrice, pour protéger les hommes de leurs propres imperfections. Il en dit, il en a la sixième version, comme autant de destructions consécutives pour tenter de proposer le monde qui soit le plus adapté à ces individus qui ne sont pas capables de voir en face le monde réel. C'est ce que dit Nietzsche dans la proposition que j'ai lue. C'est la quatrième proposition du chapitre raison, hein. La raison en philosophie dont nous parlons. Scinder le monde en un vrai monde et un apparent, finalement, c'est un symptôme de vie déclinante. Le problème du philosophe, c'est qu'il reconduit perpétuellement cette distinction entre le vrai et l'apparent, entre le réel et l'illusoire, et donc ne cesse de passer à côté de ce que serait un vrai monde, Paolo Diorio.
Oui, on a dit donc que la raison dans la philosophie produit cette dichotomie entre un vrai monde, soi-disant vrai monde, et un monde de l'apparence. Et qu'est-ce qu'il veut faire, Nietzsche ? Nietzsche veut recomposer, on a dit, cette dichotomie. Mais comment ? Avec un marteau. Parce que vous savez que le sous-titre du Crépuscule des idoles, c'est « Wie man mit dem Hammer philosophiert ». Comment est-ce qu'on fait de la philosophie avec un marteau ? Alors parfois on le traduit « Comment est-ce qu'on fait de la philosophie à coups de marteau ?» Mais ce n'est pas une bonne traduction si on lit la préface, parce que dans la préface, il n'est pas question d'une masse avec laquelle on briserait des idoles, justement, ou alors un mur. C'est par contre plutôt les concepts, l'idée d'un petit marteau à réflexe.
Comme pour ausculter, on en parlait lundi dernier, c'est pas le marteau destructeur.
Et alors, quel est l'effet de cette auscultation des idoles ? Et Nietzsche procède à cette recomposition, on disait, sur trois niveaux. Tout d'abord, donc, en touchant les idoles avec son marteau à réflexe, il peut savoir si ça sonne creux ou pas. Et dans les cas de l'être, justement, du monde vrai, de ces concepts, c'est même les concepts les plus creux qui existent. Il est dit dans ce paragraphe. C'est la dernière fumée de la réalité qui évapore, c'est les concepts de l'être ou les concepts des dieux. Ce qu'il y a de plus abstrait, non, c'est compose, si on peut dire, l'essence de cette idole, c'est-à-dire qu'il y a complètement vide. Première chose. Deuxième chose, avec son petit coup de marteau, il fait parler les idoles. Et les idoles racontent leurs histoires. Et donc, nous aurons après, donc ces paragraphes, c'est relié au paragraphe suivant dans lequel on raconte la fable. Hein, comment le monde vrai, donc les concepts du monde vrai racontent son histoire, dès Platon jusqu'à Zarathoustra. Et c'est une critique, justement, historique. Et puis, il y a même, celle à laquelle vous faisiez allusion, une critique psychologique. Pourquoi a-t-on inventé ces mondes vrais ? Quelle est, comment dire, la psychologie qui est à la base ? Quelle est la nature humaine qui est à la base de cette invention ? Et selon Nietzsche, c'est la vie qui décline, la vie qui est dans un état de décadence, qui souffre dans le monde apparent, comme elle l'appelle, hein, dans le monde vrai, dans le monde qui existe, qui souffre dans le monde tel qu'il existe, et qui a besoin de s'inventer un monde qui qualifie de monde vrai pour se venger du monde qu'elle qualifie d'apparent, qui tant l'a fait souffrir. Donc c'est un triple niveau d'explication, si vous voulez. Tout d'abord, un niveau d'explication logique qui voit l'inconsistance de ces concepts, puis il y a l'histoire de ces concepts à travers la tradition philosophique, et finalement une analyse psychologique qui fait remonter cette idée du monde vrai à la notion justement des décadences et d'une vie ou d'une société qui est en décomposition, qui est en désagrégation. Parce que on pourrait en parler, l'idée des décadences chez Nietzsche, qui est quelque chose qui est à la fois positif et négatif. parfois on a l'idée que pour Nietzsche, il faut toujours faire attention quand on essaye de comprendre quel est l'essence positive ou négative que Nietzsche donne à certains concepts. Parce que la décadence en elle-même, c'est un concept que Nietzsche utilise pour, non pas pour juger, mais pour définir une certaine civilisation, un homme, un individu, une société, etc. Et si on voit les jugements de Nietzsche sur l'histoire, sur les époques, on voit que pour lui, il y a des époques de décadence et des époques de vie ascendante qui sont dans une alternance. Et en particulier, quand vous voyez, par exemple, les formes de vie qu'il apprécie, qu'il juge témoignage d'une croissance des forces, de volonté de puissance, il dirait, lui, Nietzsche les apprécie, mais il met en garde sur le fait que la puissance provoque un abrutissement des esprits. La puissance rend stupide. Il est dit, par exemple, par rapport au Reich allemand de l'époque, il dit, faites attention, mes Allemands, vos volontés de puissance sont en train de coopérer les uns avec les autres dans une machinerie énorme où l'individu, cessant de réaliser à l'intérieur d'une société qui marche parfaitement et parfaitement organisée, cela est très positif, mais il arrive un moment où tout cela produit de la stupidité, de l'abrutissement intellectuel. Et à ces moments-là, les facteurs de mouvement qui désagrègent cette construction sont bienvenus, parce que ça va vers un enrichissement et ça revient, l'intelligence revient. Il y a un très bel aphorisme dans Humain, trop humain, sous l'ennoblissement à travers la dégénération, où Nietzsche utilise ces concepts même au niveau d'éducation de l'individu. Il dit l'individu doit être rendu fort assez pour pouvoir ensuite supporter et intégrer des petites blessures qui augmentent sa richesse et qui l'amène vers une forme encore supérieure. Il y a cette notion de dépassement qui est toujours présente à la philosophie de Nietzsche, et un dépassement qui s'est fait à travers la décadence.
Le vrai monde inaccessible, en tout cas pas atteint, et n'étant pas atteint, également inconnu. Par conséquent, dénué aussi de consolation, de salut, d'obligation. À quoi quelque chose d'inconnu pourrait-il nous obliger ? Petit matin gris, premier bâillement de la raison, chant du coq du positivisme. Le vrai monde, une idée qui ne sert plus à rien, ne fait même plus obligation, une idée devenue inutile, superflue, par conséquent, une idée réfutée. Supprimons-la. Jour radieux. Petit déjeuner, retour du bon sens et de la gaieté d'esprit, Platon rouge de honte, tapage monstre de tous les esprits libres. Nous avons supprimé le vrai monde. Quel monde restera-t-il ? L'apparent peut-être ? Mais non, avec le vrai monde, nous avons supprimé aussi le monde apparent.
Elle me dit que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant, qu'aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Déjà mes parents dans le temps voulaient que j'aille faire le charmant chez les amis de mon grand-père, des pharmaciens, des notaires, qui me trouvaient carrément vulgaire, très ordinaire. Carrément vulgaire, très ordinaire.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le quatrième et dernier temps déjà de notre série d'émissions consacrée au crépuscule des idoles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le philosophe Paolo Diorio, auteur d'un ouvrage intitulé Le voyage de Nietzsche à Sorrente, paru aux éditions du CNRS, et avec lequel nous parlons de trois chapitres du crépuscule des idoles, la raison en philosophie, comment le vrai monde finit par tourner à la fable, et les quatre grandes erreurs.
Les cheveux, les sourcils, pour être plus brun, pour faire viril, carrément débile, je trouve pas mon style, carrément débile, je trouve pas mon style, carrément méchant, jamais content. Jamais content, carrément méchant, jamais content, carrément méchant, jamais content. Chopé la mélancolie en faisant des chansons.
croissant sur mon lit. Une commande pour chanteur, pas bien. Fallait que je dise France, américain. Ça m'a carrément miné, tout dégoûté. Carrément miné, tout dégoûté. Promoteur, il voulait canaille que je fasse
de... Le deuxième chapitre dont nous voulions parler aujourd'hui, Paolo Diorio, s'intitule « Comment le vrai monde finit par tourner à la fable ?» Histoire d'une erreur, il fait à peine 2 pages. Et j'ai lu la fin, les dernières étapes donc, de cette erreur où le monde apparent n'a même plus raison d'être, puisque en supprimant le vrai monde, nous avons aussi supprimé le monde apparent. Une chose est surprenante dans ce court texte, c'est le fil conducteur. Déjà, il est très drôle, vous avez pu l'entendre, il y a vraiment des pointes lancées à tous les philosophes qui sont extrêmement subtils et drôles, disons-le. Mais il y a comme un fil conducteur qui est le soleil. Il prend à chaque fois comme un moment de la journée pour évoquer où en serait l'évolution de la raison en fonction du moment historique où elle prend place. Et ça, le soleil, on le trouve au sein des crépuscules des idoles, y compris dans le titre, c'est le déclin du soleil, mais aussi dans beaucoup d'autres œuvres de Nietzsche. Paolo Diorio.
Oui, c'est ce petit texte, comme vous le disiez, est très drôle. Comme d'habitude chez Nietzsche, est très dense, très drôle et difficile à décrypter. Très facile pour tout le monde et pour personne. Et pour commencer les décryptages de ce petit texte, je voudrais rappeler une circonstance de sa genèse. Parce que si on va regarder les manuscrits de Nietzsche, on s'aperçoit que ce petit texte, en réalité, était le commencement d'un projet littéraire de Nietzsche qui n'a jamais abouti, mais que tout le monde connaît, parce que c'était un livre que Nietzsche avait projeté d'écrire, intitulé « La volonté des puissances ». Alors ça, c'était justement le commencement de la volonté des puissances. Alors qu'est-ce que la volonté des puissances ? Il faut après connaître quelle a été la suite de ce projet. La volonté des puissances en tant que texte de Nietzsche n'existe pas, comme ils ont dit tous les grands éditeurs et interprètes de Nietzsche, bien que les grands publics parfois s'est trouvé face à des recueils factices des notes posthumes qui étaient intitulées « La volonté des puissances ». Il en existe au moins 5 qui sont toutes différentes. Par exemple, la première se compose de 400 soi-disant aphorismes et la version française de « La volonté des puissances » qu'on utilise davantage en France se compose par contre de 2700 ou quelques soi-disant aphorismes. Donc vous voyez, c'est des textes très différents. Donc Nietzsche n'a jamais publié « La volonté des puissances », on dit. En réalité, non. Nietzsche a publié La volonté des puissances, au mieux, a publié tous les matériaux, presque, qui étaient prévus pour les projets de La volonté des puissances, mais sous un autre titre, ou alors sous 2 autres titres, Les corpuscules des idoles et L'Antéchrist. Donc, si vous voulez lire La volonté des puissances, lisez Les corpuscules des idoles et L'Antéchrist. Ne lisez pas les restes, parce que les restes, ce sont justement des restes, ce sont des déchets, ce sont les rebuts. Donc, c'est des recueils factices, comme je disais, des rebuts de ce que Nietzsche a laissé à côté pendant la composition du Corpuscule des idoles et L'Antéchrist. Donc, la volonté des puissances n'est qu'une étape génétique dans la genèse de ces 2 ouvrages que Nietzsche a autorisés pour publication et publiés. Mais donc, c'est très important considérer ça, parce que ce petit texte a été dans une position très importante dans ce projet, qui était le projet d'un ouvrage théorique. La volonté des puissances devait être présentée à un système philosophique de la philosophie de Nietzsche. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que Nietzsche y a renoncé à un certain moment, parce qu'il a dit qu'il n'était pas assez stupide pour faire son système à lui. Et d'ailleurs, dans les sentences et flèches qui ouvrent les corpuscules des idoles, il y a une flèche qui est adressée au philosophe systématique. Lui dit « La volonté des systèmes, c'est un manque d'honnêteté et je me méfie des philosophes qui veulent se présenter avec un système parce que justement, c'est un manque d'honnêteté et c'est une manière, il le dira dans une note posthume de l'époque, de se présenter de manière plus stupide par rapport à ce qu'on est vraiment. »
Ça, donc, c'est le début des incursions d'un inactuel dont on a parlé hier avec Dorian Astor, hein, où il cite ce qu'il appelle « mes impossibles ». Et là, il y a une dizaine de noms à qui il s'en prend, Sénèque, Rousseau, Schiller, Dante, Kant, Victor Hugo, Liszt, dans toutes disciplines confondues, où il leur reproche des choses et d'autres, puisqu'en gros, il n'est pas d'accord avec eux, qui que ce soit. Cette espèce de mécontentement, effectivement, toujours qui est le lieu d'un cynisme chez Nietzsche.
Mais il a quand même essayé de fournir une synthèse philosophique, d'écrire une synthèse philosophique. Après, il a choisi une autre voie, une autre forme de publication, la publication donc sous forme d'essais brillants. Après les cas Wagner, Nietzsche entend se présenter au public, notamment au public français, parce qu'il pensait faire traduire les cas Wagner et les corpuscules des idoles en français.
Qui ont été rédigés à la suite l'un de l'autre, hein, de manière
à la suite l'un de l'autre. Et d'ailleurs, dans les corpuscules des idoles, il rappelle les cas Wagner. Il dit que bon, c'était un idole contemporain, une idole contemporaine qu'il avait attaquée avec les cas Wagner, et que maintenant, dans les corpuscules des idoles, ce sont des idoles éternelles, hein, qu'il est en train d'attaquer comme l'idole monde vrai, justement.
Hein, alors nous y voilà.
Nous revenons. C'est impressionnant que dans une... Parfois, les interprètes disent que la volonté de puissance, cette fois-ci, non pas en tant que projet littéraire, mais en tant que concept philosophique, est apparentée à la volonté de vivre de Schopenhauer. Donc, c'est un principe métaphysique et qui divise le monde en deux. Donc, l'essence du monde qui serait la volonté de puissance et puis les apparences. Et il n'en est rien parce que, comme vous voyez, les commencements de cet ouvrage théorique était immédiatement une critique de l'idée de monde vrai et une récomposition du monde, de cette dichotomie à travers les concepts de volonté des puissances. Et c'est intéressant de savoir aussi que la première fois que Nietzsche emploie cette expression volonté des puissances, c'est une note marginalia sur un livre de Drosbach, d'un auteur contemporain, qui faisait toute une discussion sur l'énergie. Il l'appelait la force, Kraft, à l'époque. Et donc, c'est un principe moniste qui voulait expliquer la réalité à partir d'un principe d'épanouissement de l'énergie. Et Nietzsche écrit à marge, « Wille zur Macht sei. » Moi, j'ai dit, c'est plutôt la volonté des puissances. Donc, c'est un contexte, si vous voulez, d'explication naturaliste. Et c'est pour ça qu'il voulait, tout d'abord, expliquer la différence de sa position par rapport à la tradition métaphysique. Et alors là, l'histoire commence avec Platon. Vous l'avez rappelé, vous avez cité certains passages qui sont très drôles. Et on voit qu'au début, c'est une idée morale. Parce que pour Platon, le monde nouménique, comme on disait tout à l'heure, il utilisait le terme nous, c'était le monde des idées et avait surtout le monde du sage, il dit Nietzsche. Non, moi, Platon, je suis la vérité parce que je représente une forme de vie dans laquelle je réalise une manière de vivre donc morale qui a une valeur aussi métaphysique. Et après, l'idée s'est christianise, dit Nietzsche, devient de plus en plus nordique, konigsbergienne, non, avec référence à Kant, jusqu'à arriver au positivisme qui commence à dire que cette idée, on parlait tout à l'heure de Friedrich Albert Lang, c'était le moment auquel Nietzsche fait allusion. Bon, on n'y croit plus. On continue à garder cette idée d'un monde métaphysique parce que c'est édifiant, mais finalement, on comprend que ça n'est pas un principe pour interpréter la réalité. Avant-dernière étape, ce sont les esprits libres. Donc, les esprits libres, vous voyez, la philosophie de l'esprit libre, c'était la philosophie du maître humain, mais c'était aussi la philosophie des Freigeist, comme on les appelait à l'époque. C'était ceux qui avaient dépasser même les positivismes pour arriver à dire « bon, on n'a pas besoin de ça, occupons-nous de l'unique monde qui existe ». Et le dernier passage, par contre, est celui du soleil qui est à pic, le midi.
Midi, moment de l'ombre la plus courte, fin de la plus longue erreur, apogée de l'humanité.
Exactement. L'ombre la plus courte est le soleil de la connaissance qui éclaire de manière la plus forte la réalité. Le soleil, c'est une métaphore qui comprend plusieurs choses, qui signifie plusieurs choses, mais fondamentalement, même dans Zarathoustra, c'est le soleil de la connaissance.
Si vous ouvrez le Zarathoustra de Nietzsche, vous vous apercevez que le soleil est toujours présent, qu'il dicte à ce texte un certain nombre de ses développements, qu'il scande ses moments. Je pense en particulier au midi, puisque Nietzsche annonce, pas seulement dans ce texte d'ailleurs, annonce la venue du grand midi, où le soleil de la connaissance sera à son zénith, et ce midi semble déterminer le moment où la pensée de Nietzsche, c'est-à-dire la pensée de la volonté de puissance et de l'éternel retour, commencera à rayonner sur l'humanité entière pour amener son renouvellement. Bien. Alors le problème est de comprendre pourquoi ce midi? Pourquoi ce midi est un soleil? Pourquoi il y a eu un autre soleil avant? Car Nietzsche ne manque pas de rappeler que Platon a été d'une certaine façon un soleil pour les Grecs, etc. Donc, par système solaire, Ce sont tous ces éléments qu'il faut entendre. La volonté de puissance au premier chef, la pensée de la vie, la pensée de l'interprétation et la pensée de l'éternel retour.
Le monde intérieur est pavé de mirages et de feux follets. La volonté en est un. La volonté ne met plus rien en mouvement. Par conséquent, elle n'explique plus rien non plus. Elle se contente d'accompagner des processus. Elle peut aussi être absente. Le soi-disant motif, autre erreur. Rien qu'un phénomène de conscience superficielle, qu'un à côté de l'acte qui cache les antecedentia d'un acte bien plutôt qu'il ne les représente. Et que dire du moi ? Il a tourné à la fable, à la fiction, au jeu de mots. Il a carrément cessé de penser, de sentir et de vouloir. Qu'en résulte-t-il ? Il n'y a pas de faits intellectuels du tout. Toutes les prétendues données d'expérience les attestant sont parties en fumée. Voilà ce qui en résulte. Et nous avions commis un bel abus avec ces données d'expérience. Nous avions, sur cette base, créé le monde en lui donnant la forme d'un monde de cause, d'un monde de volonté, d'un monde d'esprit. C'était la plus ancienne et la plus durable psychologie qui était ici à l'œuvre. Elle n'a absolument rien fait d'autre. Tout ce qui arrive était considéré par elle comme un agir, tout agir comme conséquence d'une volonté. Le monde était considéré par elle comme une multiplicité d'agents. Un agent, un sujet, se glisser sous tout ce qui produit. L'homme a projeté à partir de lui-même ses trois faits intérieurs, ce à quoi il croyait le plus fermement. La volonté, l'esprit, le moi. Il commença par tirer le concept d'être du concept de moi. Il a passé les choses comme étant, à son image, conformément à son concept du moi comme cause. Quoi d'étonnant qu'il n'ait jamais fait ensuite que retrouver dans les choses ce qu'il y avait mis. La chose elle-même, pour le dire une fois encore, le concept de chose, un pur et simple réflexe de la croyance au moi comme cause.
Le chapitre intitulé « Les quatre grandes erreurs » est un chapitre difficile à lire, Paolo Diorio, qui présuppose beaucoup de connaissances philosophiques des auteurs auxquels Nietzsche se réfère parfois implicitement. Pour le dire assez simplement, j'espère, en tout cas à partir du texte que nous venons d'entendre, ici, Nietzsche s'attaque à une erreur, à celle de la fausse causalité, qui consiste à penser que la volonté, et surtout le « moi », est une cause d'action, c'est-à-dire que celui qui agit est un sujet, est une chose, une substance. Ce qui nous dit Nietzsche est faux, c'est-à-dire relève d'une illusion. Rien n'existe qui aurait la forme d'une substance ou d'une chose en soi et qui serait une origine de nos actes.
Oui, absolument. C'est un chapitre assez difficile qui se lie directement au chapitre sur le monde vrai qui devint fable. Tout à l'heure, on a parlé donc du midi. De la dernière étape de cette histoire, qui est celle où le soleil de la connaissance est à son apogée. Et ça semble un peu pléonastique, parce que finalement, on s'est dit, qu'est-ce que ça apporte par rapport à la phase précédente ? Alors, ce qui apporte est que, comme le disait Bernard Potra dans les textes que nous avons entendus...
On a entendu un extrait de la voix de Bernard Potra, oui, qui était en 71.
Exactement, c'est les moments d'une décision. C'est-à-dire, c'est une prise de conscience qui est toute la structure de notre connaissance qui était organisée sur l'idée d'une division entre les connaissances a priori, les connaissances de la raison et les connaissances a posteriori qui viennent des sens, doit être reconfigurée. Il ne suffit pas de comprendre que nous avons commis cette erreur. Maintenant, c'est pour ça « incipit Zarathustra ». Parce que Zarathustra, c'est l'idée que maintenant, il faut agir. Maintenant, il faut transformer tous nos concepts. Parce que ces concepts sont nés dans des époques, des réflexions qui sont primitives par rapport à la nôtre. Mais ils se sont ensuite incrustés dans le langage. Et chaque mot que nous disons nous ramène à une phase psychologique intérieure et nous induit à une erreur. Nietzsche fait un parallèle très intéressant. Il dit comme pour les mouvements des astres, ce sont nos yeux qui nous trompent tout le temps parce qu'ils nous montrent justement les mouvements des astres alors que c'est la Terre qui bouge. Et de la même chose, chaque fois que nous utilisons le langage, nous avons une mythologie qui nous pousse à faire des affirmations qui ne sont pas en accord avec nos connaissances
C'est ce qu'il écrit un peu plus loin. Il dit « J'ai bien peur que nous ne nous débarrassions pas de Dieu parce que nous croyons encore à la grammaire. »
Fantastique. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que donc, dans la structure de notre langage, il y a l'idée d'un sujet, d'un verbe, des compléments. Et nous parlons avec ça. Mais cette structuration de notre langage est née dans des époques des sciences primitives. Et c'est une sorte de fardeau, un héritage que nous avons. Mais il faut essayer de le reconfigurer pour pouvoir l'adapter à notre niveau des sciences d'aujourd'hui, qui, par contre, sait qu'il n'existe rien de tout ça dans la réalité, dans le mouvement continu des lettres. Nous pouvons l'appeler lettres, mais à condition que nous pensons que ce qui existe est un devenir. Tout le temps un devenir.
Ça, c'est un point très important qu'on n'a pas encore évoqué. On a parlé de l'importance de l'histoire. Mais pour Nietzsche, l'être ne s'oppose pas au devenir. Au contraire, d'ailleurs, si être il y a, celui-ci est en devenir. D'où l'hommage qu'il rend à Héraclite dans ce texte.
Il n'y a pas d'autre être qui ne soit pas un devenir, on peut dire. En réalité, là aussi, c'est une dichotomie qui est fausse. Nous ne pouvons pas démontrer, en aucune manière, l'existence de quelque chose qui persiste. C'est toute une discussion que Nietzsche fait avec les philosophes dans les cours, par exemple, sous les philosophes anciens. Et il fait toute une discussion avec Parménide, avec des contemporains. Maintenant, nous n'avons pas le temps de l'évoquer, mais l'idée est, c'est impossible de démontrer contre Kant, l'idée qu'on puisse avoir une perception ou alors que nos connaissances a priori puissent démontrer l'existence de quelque chose qui demeure et qui ne bouge pas. Même nos représentations dans l'esprit, sont en mouvement. Donc, même à partir de l'introspection, etc., nous ne pouvons jamais trouver quelque chose qui ne bouge pas. Tout ce que nous connaissons bouge. Et alors, je voulais juste observer, parce qu'il y a cette expression magnifique, c'est un jeu de mots, en fait, que Nietzsche fait, qui est intraduisible en français. Il parle des métaphysiciens comme ceux qui habitent un monde derrière le monde. Et le terme allemand est Hinterwelt.
Ce qu'on traduit parfois en français par arrière-monde.
Arrière-monde, mais c'est la traduction en fait du grec métaphysica, et donc lui il compose Hinterwelt, mais en allemand il y a un autre mot qui est Hinterwelt, écrit différemment mais qui sonne de la même manière, qui veut dire les habitants du Hinterwald, et aussi les Plouk, les rustres, ceux qui sont restés à un état des connaissances primitives. Et donc Nietzsche fait référence à ça quand il dit « la métaphysique, ça appartient à un état primordial des connaissances qui s'est incrusté dans notre langage, il faut s'en débarrasser ». C'est quelque chose de très difficile à faire. Même les esprits libres, les Freigeist de son époque, ils avaient abandonné, croyaient avoir abandonné, d'un point de vue intellectuel, les croyances à la métaphysique, mais aussi les croyances à la morale chrétienne, par exemple. C'est le même schéma. Mais en réalité, il continuait à les pratiquer. Et l'idée que Dieu est mort, Nietzsche, enfin, c'est célèbre son affirmation que Dieu est mort, mais il faut l'entendre, Dieu est mort, c'est un constat. Ce n'est pas une annonce de Nietzsche, c'est un constat. Mais c'est sur lequel Nietzsche veut attirer l'attention, et que si Dieu est mort, et il est, il faut maintenant en tirer les conséquences et restructurer notre théorie du monde, bien sûr, mais aussi notre morale, à partir du fait que Dieu n'existe plus et que la métaphysique aussi n'existe plus. Comment faire ?
Ce sera la question de la fin. Merci beaucoup, Paolo Diordio, d'être venu nous parler de Nietzsche aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Le voyage de Nietzsche à Sorrente, qu'on trouve aux éditions du CNRS. Merci à vous.
Merci.
Et notre discussion, Paolo Diordio, s'inscrivait dans cette journée spéciale à l'occasion de la Journée mondiale de la radio proposée par l'UNESCO, une journée spéciale que France Culture a choisi de placer sous le signe de la parité.
Mes blessures, tous les vautours qui me guettent, je paye très cher les factures, oui, de mes défis, de mes défaites. On m'a souvent laissé pour mort. Cœur cassé par encore, des coups au cœur, des coups au corps. Ce qui tuera nous rend plus forts. J'ai toujours caché.
cacher mes regrets. Et jamais de signal de détresse. Et souvent quand je titubais, c'était de douleur, pas d'ivresse. On m'a souvent laissé pour mort. Et mon cœur cassé par encore. Les coups au cœur, les coups au corps. Ce qui tue pas nous rend plus forts.
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est l'heure de retrouver Géraldine Mosne à Savoie, qui, comme tous les jours, vient nous parler d'un essai de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Donc il est encore question d'écologie aujourd'hui.
Et oui, c'est le dernier temps de cette semaine consacrée aux ouvrages parus autour de l'écologie. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un ouvrage non pas politique, mais esthétique, Les relations paradoxales de l'art à la nature, de Jean-Pierre Mouret, qui paraît aux publications de l'Université de Saint-Étienne. Face à la nature, il y a deux types de positions que l'artiste adopte. Soit il postule que le monde naturel a laissé sa place à un écosystème artificiel fait de machines et de prothèses, c'est par exemple les films de David Cronenberg dans lesquels les personnages se perdent à travers les écrans. Soit, et c'est la position inverse, l'artiste tente de retrouver les éléments du monde naturel, loin des flux d'images, des matières synthétiques et autres gadgets virtuels. C'est cette deuxième attitude de l'art face à la nature que tente d'explorer cet ouvrage « Relations paradoxales de l'art à la nature » paru aux publications de l'Université de Saint-Étienne. Dans cet ouvrage, l'auteur et professeur d'esthétique Jean-Pierre Mouret nous montre que l'enjeu de nombreuses œuvres d'art est de rappeler que la nature est notre pierre de touche. C'est par exemple ce que font les artistes qui représentent le roc et la pierre, ou ceux qui exploitent le motif bien connu de l'animalité. Mais il y a aussi des motifs artistiques plus inattendus, comme le motif bovin qui évoque la viande et le troupeau, ou le motif de l'herbu, telles les œuvres de Francis Bacon ou Jean Dubuffet qui tracent les entrelacs des herbes. Dans ce court ouvrage, Jean-Pierre Mouret s'attache donc à décortiquer des œuvres d'art liées à la nature, œuvres que l'on peut en plus découvrir au fur et à mesure des pages. Mais il ne s'agit pas pour autant d'un commentaire neutre, d'un catalogue des œuvres qui mettent en scène la nature. Non, tout l'ouvrage réfléchit cette démarche et soulève le paradoxe de ces œuvres d'art. En quête de nature, elles restent des artefacts. Elles ne sont pas des blocs de nature, mais une production de signes propre à un artiste. C'est que loin d'imiter ou de prolonger la nature, cet ouvrage nous montre que l'art rejoue plus subtilement la naissance et l'alphabet des formes naturelles.
Merci Géraldine, rappelez-nous le titre de l'ouvrage.
Relations paradoxales de l'art à la nature de Jean-Pierre Mouret et c'est aux éditions de l'Université de Saint-Étienne.
Merci beaucoup, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, nous parlerons laïcité, violence et civilité en compagnie du philosophe Étienne Balibar. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter de l'émission, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Pour l'heure, vous écoutez France Culture. Il est 10h50, c'est l'heure de retrouver Martin Kénéen pour Grand Amphi.